Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet, la scène, communion ou division, avec André Gounel. Alors André, bonjour.
Bonjour.
Vous avez plusieurs fois remarqué que les sacrements ne signifiaient plus grand-chose parce qu'ils sont trop en décalage avec le quotidien. Il vous arrive de vous demander si les contester ne serait pas la seule manière de leur redonner sens. Eh bien, c'est ce que nous allons faire ici. Ce sera moins spectaculaire que de refuser de prendre la scène le dimanche quand elle est offerte. Alors, tout d'abord, je vous demanderai de faire un petit rappel de ce qu'est la scène dans la Bible.
Voilà, je commence par indiquer que scène, ça signifie repas, hein, c'est cena en latin. C'est un mot de la langue tout à fait banale. C'est un mot qui s'est ritualisé, comme d'autres mots employés par les chrétiens. C'est devenu un mot rituel, mais au départ, c'est simplement un repas. C'est prendre un repas ensemble, c'est pas plus. Alors, les repas rituels, les repas religieux, ce n'est pas une invention du christianisme ou du Nouveau Testament. De même, nous avons dit que le baptême n'est pas une invention du Nouveau Testament.
Oui, mais on va y venir. Mais avant, vous pouvez rappeler ce qu'on appelle la scène dans la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors c'est une allusion au dernier repas de Jésus, pris dans une pièce qu'on appelle le cénacle, la salle à manger, mais cénacle, ça fait quand même plus religieux, et que Jésus prend la veille de son arrestation, enfin le jeudi soir, le soir de son arrestation, avec ses disciples. Dernier repas avec ses disciples. Et le repas est célébré ensuite, après la mort et la résurrection de Jésus, dans l'Église primitive, et jusqu'à aujourd'hui, sous la forme, les protestants disent scène, les catholiques disent plutôt Eucharistie, mais c'est la même chose.
Voilà, alors là vous
alors,
dites que...
Cena, mot au départ tout à fait banal, il ne faut pas imaginer quelque chose d'extraordinaire. Hein.
Oui.
Et le repas rituel des religieux, ce n'est pas une invention, il s'inscrit dans un contexte. Et pour la scène chrétienne, il me semble qu'il y a un triple contexte.
Oui, vous parlez de trois héritages.
Trois héritages ou
le
trois
premier,
rapports.
Donc, c'est le repas pascal juif qui est mentionné.
C'est le repas pascal juif. Il semble que ce dernier repas de Jésus avec ses disciples est un repas pascal. Je dis « il semble », c'est très probable, c'est pas absolument certain. Les textes ne sont pas d'une clarté totale et évidente, mais très probablement, c'était un repas pascal. Le repas pascal, c'était le repas où on célébrait la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Le moment où les Israélites sont sortis d'Égypte, ce qu'on appelle l'Exode, sous la conduite de Moïse, pour partir dans le désert, puis pour aller dans ce qu'on appellera plus tard la Palestine, pour former un peuple. Et ce repas est un repas où on célèbre donc la libération, la liberté. Et les Juifs le prenaient chaque année, de manière très ritualisée. On mangeait des herbes amères pour rappeler l'amertume de l'esclavage. On mangeait un agneau, parce qu'il y a un agneau qui a été sacrifié au moment du départ. Et surtout, on racontait la sortie d'Égypte. Le plus jeune de la famille disait « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui distingue cette soirée des autres ?» Et le plus vieux était censé lui expliquer. Alors, je suppose que le jeune savait parler, que le plus vieux n'était pas complètement gâteux.
Oui, effectivement.
Mais, voilà.
Mais là, vous voyez dans le récit donc, du repas de Jésus, deux modifications.
Alors, s'il s'agit bien d'un repas pascal, comme c'est probable, mais pas absolument certain, il semble que Jésus a amené effectivement deux modifications. D'abord, il prend le pain, la galette, il la rompe, et dit « Ceci est mon corps ».
Oui, là, on n'est plus dans le repas pascal juif.
Exactement, ceci, mon corps. La galette symbolisée, semble-t-il, hein, on est dans des hypothèses, je ne veux pas donner comme des certitudes ce qui n'est qu'hypothèse. La galette symbolisée, le judaïsme, la vérité du judaïsme. Et au fond, Jésus est en train de dire, la vérité du judaïsme, c'est ma personne. Mon corps, c'est ma personne.
Oui, ce qui est complètement iconoclaste.
Ah, complètement.
Oui.
Ce n'est plus l'Exode, c'est ma mort et ma résurrection. Et la deuxième modification, qui s'inscrit tout à fait dans la ligne de la première d'ailleurs, la seconde modification, c'est que Jésus s'attribue là la place de Moïse. Désormais, on ne se référera plus à Moïse, on se référera à moi. Et il est évident que pour un juif pieux et qui aurait assisté à cette scène, il n'y a que les disciples. Hein,
oui.
Qui ont été préparés. Il y avait là un geste blasphématoire.
Enfin, complètement.
Il rompt, il casse il reprend le rite et lui fait référence d'une certaine manière, mais aussi il le casse.
Oui, et il parle d'autre chose, puisque là, la libération, en fait, l'exode, ça va être sa résurrection, ça va être sa mort.
Sa résurrection.
Oui.
On parle de la Pâque juive hein, pour l'exode. Pâque, ça veut dire passage.
Oui.
Alors, il y a le passage de l'esclavage d'Égypte à la liberté. Et là, pour Jésus, il y a le passage de la vie à la mort, de la mort à la vie. Et donc, c'est un geste qui... pour comprendre l'audace, il faut imaginer que si aujourd'hui un prêtre ou un pasteur, au moment de célébrer l'Eucharistie ou la scène, disait « Mais désormais, c'est plus Jésus, c'est moi », on le considérait comme un fou.
Ça ferait un peu désordre.
Oui, on l'enfermerait, on le considérait comme fou. Jésus, on ne l'a pas enfermé, on l'a crucifié.
Oui.
Y a donc une reprise qui est tout à fait caractéristique, je crois, des premiers chrétiens, reprise d'un rite, mais en le cassant, en lui donnant une autre signification.
Complètement.
Alors ça, c'est le premier contexte, celui de la Pâque juive. Il y a un second contexte qui est un second apport, ou un second héritage, qui est moins souvent évoqué. C'est le contexte et l'héritage des repas, des religions, bon, on dit les religions à mystère, c'est peut-être pas un très bon terme, mais disons des confréries religieuses du monde à la fois grec et Asie mineure, turco-grec maintenant. Et dans ce monde, il y a quantité de confréries religieuses et qui se réunissaient pour un repas annuel, semble-t-il aussi, où on évoquait le souvenir du fondateur. Et c'est le seul contexte, c'est le seul parallèle que l'on connaît à la phrase « Faites ceci en mémoire de moi » qui apparaît dans
Parce que les gens le disaient en mémoire
oui,
du disparu.
En mémoire de notre fondateur ou du grand homme de la confrérie. Et c'est probablement pas par hasard que les mentions les plus anciennes de la scène apparaissent dans une église de Grèce à Corinthe. C'est dans ce milieu-là on connaissait ces repas rituels. Et là aussi, il y a reprise d'un rite avec une sorte de rupture. C'est plus un fondateur, c'est pas un mort, c'est à Jésus, c'est à un vivant que l'on se réfère. Alors ça, c'est le second contexte.
Et puis, il y a la communauté de table.
Le troisième contexte, oui. C'est ce qu'on appelle la communauté des tables. Là aussi, je le précise, on est dans des hypothèses. Pas des hypothèses farfelues, il y a des indices.
Oui.
Mais enfin, ce n'est pas absolument prouvé. Et il semble que dans la vie du petit groupe qui entourait Jésus, donc de Jésus et de ses disciples, les repas ont été des moments importants. Il y a d'ailleurs énormément de repas
oui.
dans le Nouveau
oui.
Testament. Et probablement le moment... on peut le supposer, où la communauté se soudait autour du maître pour écouter ce qu'il avait à dire. Et ces repas, ces compagnonnages de table sont reprises par l'Église primitive et sont ensuite continuées et de plus en plus ritualisées. Alors ce triple contexte, cette triple référence, cette triple antécédence est intéressante parce qu'on y retrouve au fond les trois grands thèmes qui ont été développés au sujet de la scène. Rappel de la mort et de la résurrection de Jésus, le contexte du sacrifice, qui est le contexte qui a dominé. Le second contexte, c'est celui du mémorial, de la référence à la parole annoncée, à la parole dite. Et le troisième contexte, c'est la dimension communautaire de la scène. Et on voit que ces trois significations sont des significations qui sont en fond reprises de gestes culturels, mais déviés sur le christianisme. Et c'est ce qui me fait dire que la scène, qui probablement avait beaucoup de signification dans ce contexte, ça évoque quantité de choses, en a beaucoup moins dans notre contexte. Parce que le repas pascal juif, c'est plus présent dans notre culture. Les repas d'anniversaire de mort, c'est pas non plus quelque chose qui se pratique énormément. Il reste quand même, et ça c'est fort, le repas pris ensemble.
Eh ben, on va en parler, mais d'abord on va faire une pause musicale. Et vous nous avez choisi l'Alléluia de Mozart. Alors nous écoutons ce morceau et nous nous retrouvons ensuite. Maintenant, nous nous retrouvons pour reprendre des résumés. Donc, on peut dire que ces trois apports se retrouvent dans les thèmes, donc à propos de la scène, et que maintenant, ça c'est, comme vous venez de le dire, ça c'est un peu. On n'est plus dans ce domaine culturel.
Ça s'est un peu épuisé, et ça pose un problème autour des célébrations. Nous en parlerons aussi quand on parlera de la scène selon la Réforme. Et c'est clair qu'il y a dans le christianisme et dans le protestantisme un certain nombre de courants qui, au fond, ne sont pas très favorables à la célébration de la scène. On en a un exemple avec les Quakers. Le principal théologien des Quakers, ce 18e, Barclay, il dit oui, bien sûr, les premiers chrétiens dans le monde qui était le leur avaient besoin de rites qui les accompagnent, qui leur permettent de sortir de ces religions rituelles. Mais qu'un 10 siècles, 15 siècles, 17 siècles après, est-ce qu'on en a toujours besoin? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'arrêter ces célébrations et de s'en tenir à l'annonce et à la méditation de la parole?
Oui, parce que est-ce qu'on en a encore besoin? On peut se poser la question. Et surtout, comme vous le faites remarquer, c'est un décalage par rapport à notre culture. Oui. Et donc, on ne comprend pas. On peut comprendre le repas pascal, mais les deux autres...
Oui, mais on peut le comprendre si on vous l'explique.
Oui.
C'est-à-dire que là, il y avait une sorte de compréhension spontanée qui a été complètement, elle, perdue. Et puis, à ces raisons, les premiers salutistes, Catherine Bouffe, qui a été...
Donc, l'armée du salut.
L'armée du salut, c'est une branche...
Oui.
C'est né du méthodisme, très porté sur l'action sociale. Et Catherine Bouffe a écrit... Il y a eu des siècles et des siècles de disputes, en particulier autour de la notion de présence dont j'ai relativement peu parlé aussi, parce que elle est très peu, on la trouve pas tellement dans le Nouveau Testament. Hein, il y a eu de telles disputes, il y a eu de telles querelles, que ça a, en quelque sorte, sali, déconsidéré les sacrements. Et si au lieu de tellement se disputer, de tellement polémiquer autour des sacrements, les chrétiens s'étaient un peu plus occupés de cultiver l'amour du prochain et de leur aide, ça aurait été mieux. Et elle considérait que tous les sacrements avaient été plutôt, dans la vie de l'Église, un poids que vraiment une aide. Voilà, alors c'est pas du tout l'optique prise par les grandes Églises. Et au contraire, dans notre siècle, on a de nouveau insisté sur le besoin qu'a l'homme de gestes,
voilà,
de gestes significatifs.
De gestes rituels, de gestes
alors,
un peu magiques.
Je trouve que rappeler leur caractère culturel, rappeler leur relativité, est important parce que ça empêche de les sacraliser, d'en faire une sorte de cérémonie hors sol, de cérémonie céleste, de cérémonie divine, instituée... intemporellement, sans contexte géographique dans la vie des chrétiens, nous avons besoin de gestes. Eh bien, ayons des gestes, mais sachons que ce sont des gestes pédagogiques. N'en faisons pas quelque chose de sacré.
Oui, alors d'où la nécessité de rappeler donc le contexte culturel. Et puis aussi, maintenant, je voudrais qu'on en vienne à une question un peu fondamentale. À quel degré le pain représente-t-il le corps du Christ et le vin représente-t-il le sang du Christ? C'est remplacer finalement la recherche de Jésus par des considérations, je ne dirais pas de boulangerie, mais...
Presque, oui.
Oui, et puis d'œnologie avec le vin...
Alors ça, c'est l'assistance de la présence. Comment le Christ est présent? Comment le Christ ressuscité est présent? Et alors, il y a eu deux réponses dans l'histoire du christianisme. Il est présent matériellement, corporellement, substantiellement, dit-on dans les vieux textes, mais comprenez matériellement, par le pain et le vin. Et à ce moment-là, le pain et le vin prennent une énorme importance. Mmh. C'est la thèse de la transsubstantiation, la thèse catholique, pour laquelle le pain n'est plus du pain, mais est devenu le corps même du Christ, la substance du Christ. Et puis il y a une autre réponse, celle avancée par Zwingli, mais il y a des précédents dans l'histoire du Moyen-Âge, et par les réformateurs, c'est une présence, le corps et la présence est une présence qui est symbolique, c'est-à-dire qu'elle est signifiée. La présence est signifiée par le pain et le vin. Elle n'est pas apportée par le pain et le vin. Le pain et le vin restent du pain et du vin, mais ils nous rappellent, ils nous signifient cette présence du Christ.
Alors ça, on le verra la prochaine fois quand on étudiera plus particulièrement la réforme. Mais je voudrais qu'on termine en insistant un peu sur la position de l'Église primitive où le pain devient sacré donc par l'acte du prêtre. Mais on va voir ça après une seconde pause musicale que je vous propose. Et je vous propose un extrait des chœurs mélanésiens, extrait du film The Thin Red Line de Terrence Malick, qui est un très beau film, un film de guerre, et là nous entendons des chœurs chrétiens mélanésiens. Alors nous écoutons cette musique. Voilà, on se retrouve et on va terminer donc sur la position de l'Église primitive, oui. Où le pain donc devient sacré. Oui. Et là, il faut une intervention physique du prêtre, masculin bien sûr, pour faire descendre le corps du Christ. Et donc la sacralisation qui va entraîner toutes sortes de dérives avec les histoires un peu abominables qu'on raconte sur les gens qui ont été accusés d'avoir craché sur l'hostie, qui se retrouvent mis à mort. Donc vraiment une sacralisation complète d'un morceau de pain.
Oui, qui aux yeux de la réforme est une idolatrie pure et simple. Souvent, le Moyen-Âge a, je dirais, un péché par excès de religion, par excès de piété, et qui a amené à donner une substance divine à ce qui témoignait du divin. C'est plus un témoignage, c'est plus un signe, c'est devenu la réalité même.
C'est-à-dire que vous dites que la signification se transforme en l'objet, en Jésus,
exactement.
Quoi.
Oui. Et donc le pain devient corps et sang de Jésus pour ceux qui le prennent. Et du coup, la Sainte Cène, au lieu d'être considérée comme une aide à la vie chrétienne, devient le sommet de la vie chrétienne. On se prépare à la communion. Il y a toute une préparation. La communion apparaît comme une sorte d'aboutissement, comme un sommet.
Une forme de rite de passage aussi, peut-être ?
Alors là, si c'est un rite de passage, on est plus dans le moyen, dans ce qui sert de moyen.
Ouais.
C'est plus qu'un rite de passage, c'est un sorte de moment ultime.
C'est une ingestion, une forme de cannibalisme aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans l'idée de manger quelqu'un ?
Oui, alors ça, c'est un thème qu'on trouve dans toute l'histoire des religions.
Ouais.
Aussi, le cannibalisme sacré. Il est possible d'ailleurs que tous les cannibalismes étaient plus ou moins sacrés.
Oui.
Et qu'il s'agissait de s'approprier.
Ouais.
Il y a une insistance sur le réel. Quand on parle de présence spirituelle ou de signification, les gens ont l'impression qu'on dévalorise. Et quand on parle de réalité, qu'on survalorise. Ce qui est lié à une sorte de philosophie pour laquelle ce qui se touche est plus important que ce qui se pense.
D'où la nécessité d'avoir le corps...
D'avoir quelque chose qu'on touche.
Ouais, ouais, ouais.
C'est une pente religieuse, c'est une pente de notre esprit et qui correspond pas du tout à une pensée de type idéaliste au sens philosophique du 19e. Et sans doute pas du tout au néoplatonisme du début de notre ère.
Et qui semble assez étranger à la signification que Jésus voulait lui donner, en tout cas dans ce qu'on lit des évangiles.
Tout à fait. À mon sens, la Bible est dominée par une pensée du récit, une pensée de l'action, une pensée de l'événement,
ouais.
Et pas du tout une pensée de la substance.
Oui.
C'est la relation qui compte. C'est pas la substance.
Et alors, est-ce qu'on sait pourquoi l'Église primitive et à la suite le catholicisme met plus l'accent sur le pain que sur le vin? Par exemple, les fidèles communient le pain, mais il n'y a pas de vin qui est offert à l'assistance. Est-ce qu'il y a une raison donnée par l'Église primitive?
Alors, il y a une raison, c'est assez, c'est relativement... Je vais dire c'est relativement récent, dans le sens que ça ne date pas des origines. Et c'est lié effectivement à la matérialisation. Parce qu'à ce moment-là, chaque bout d'hostie ou chaque goutte de vin, de l'hostie devenue pain du Christ,
ouais, corps du Christ,
et le vin devenu sang du Christ, a un prix infini. Alors le pain, on l'ingère.
Oui.
Boire, qu'une goutte tombe, c'est un danger constant.
Ah.
Donc on préfère le réserver
aux
prêtres plutôt que de courir le risque de la distribution. Puis alors très vite, c'est apparu comme un privilège du prêtre, quelque chose qui le met à part. Mais ça, c'est le développement de la théologie catholique. C'est ni dans le Nouveau Testament, et encore moins à la Réforme.
Et dans l'Église primitive, les gens communiaient sous les deux espèces, on le sait ou...
Non, on ne sait pas très bien comment ça se présentait. Les textes du Nouveau Testament disent « rompit le pain, distribue la coupe ». Ils n'en disent pas plus. On sait qu'il y a les deux. On ne sait pas très bien. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a marqué « rompit le pain », est-ce que vraiment c'est un repas rituel ? Rompit le pain et rendre grâce ? On n'en est pas sûr. On sait très très peu de choses sur la manière dont c'était célébré, et si c'était célébré souvent, et comment c'était célébré au début de l'Église. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure que le christianisme attire à lui des païens qu'on voit surgir quantité de rites.
Et je voudrais revenir bien avant, donc, avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il établit une opposition entre la coupe et la table des démons et celle du Seigneur dans lesquelles il faut choisir. C'est dans 1 Corinthiens 10. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que dès le départ, il y a une méfiance par rapport à ce repas
Alors, dans 1 Corinthiens 10, c'est un des textes les plus anciens sur la scène, puisque les épîtres de Paul ont été écrits avant les évangiles.
Oui.
Que l'on est. Et à mon sens, ça s'inscrit dans le contexte que j'ai indiqué tout à l'heure. La table des démons, c'est la table des confréries.
Oui.
Et Paul est en train de dire, vous ne pouvez pas faire partie à la fois d'une confrérie religieuse, je ne sais pas, consacrée à Dionysos ou à je ne sais quoi d'autre, et prendre la scène de Jésus. Il faut choisir entre les deux. Il y a donc une sorte de disqualification des repas des confréries religieuses.
Des confréries païennes. Selon vous, ce n'est pas du tout une remise en cause de la scène de l'apôtre Paul?
Bon, je ne pense pas. Ceci dit, on a remarqué qu'il n'y aurait pas ce passage, il y aurait très peu d'allusions. Un jour, Carlo Barth a écrit ça au père Congar, qui s'étonnait de l'importance que le christianisme a donnée à la scène, comparée à la peu de place qu'elle occupe dans le Nouveau Testament.
Ben, c'est un peu la même chose pour le baptême aussi. Si on regarde bien, exactement, le baptême, il y a peu d'allusions au baptême. Et finalement, là, vous dites qu'il y a peu d'allusions à la scène.
Il y a plus d'allusions au baptême que d'allusions à la scène. Encore qu'il y ait des textes autour desquels on peut discuter. Je suis le pain de vie, est-ce que c'est une allusion à la scène ou pas? Les exégètes se partagent. Et je ne vois pas comment on peut trancher en toute objectivité le débat.
Mais alors, ça remet en cause pas mal de choses, là, ce que vous dites, parce que finalement, le baptême, bon, on en a déjà parlé, mais c'est le seul sacrement avec la scène. Et ces sacrements, ce sont des choses dont on parle très peu dans l'Évangile et qui semblent...
Eh oui, Zwingli disait qu'il faudrait mieux abandonner la notion de sacrement, parce qu'elle n'est pas, évangélique. Et je suis pour ma part assez de cet avis. Je trouve qu'on l'a... De nouveau, je crois qu'il faut qu'il y ait des gestes symboliques.
Oui.
On ne vit pas sans des gestes symboliques. On en a besoin. Mais que ces gestes symboliques, les sacraliser, leur donner plus d'importance qu'ils en ont, ça, c'est une déviation. Et que le christianisme ne l'a pas évité. Et que de ce côté-là, le christianisme... N'est-ce pas le geste de la réforme? C'est précisément de critiquer le christianisme existant au nom du message primitif. Et au nom du message primitif, il me semble qu'on peut beaucoup critiquer les sacrements.
Et alors là, vous pouvez rappeler rapidement qui est Zwingli?
Zwingli est le réformateur de Zurich, il est contemporain de Luther et il est en rupture en 1523-1524 avec l'Église catholique, après avoir été prêtre. Zwingli avait été aumônier d'un lieu de pèlerinage, d'un lieu eucharistique, et avait été hérissé par le nombre de superstitions qu'il avait constatées.
Et il rangeait les sacrements dans ces superstitions?
Ah ben, il célébrait la scène, il fait même une célébration de la scène, mais extrêmement simple. On en redira un mot.
Oui, on en reparlera la prochaine fois. Mais en tant que prêtre, il avait donc fait des eucharisties. Il faisait descendre le corps du Christ dans le pain.
Alors ça, il en est complètement revenu.
Oui. Il n'a jamais eu de regrets à ce sujet-là. Enfin, il a toujours eu une gêne par rapport à ça.
Il a toujours été gêné. Je crois que... Bon, Zwingli ne parle pas tellement de ses états d'âme. A-t-il eu des regrets de sa vie de prêtre? J'en sais rien. En fait, il y a une évolution qui se produit toute sa vie et qu'il vit sans des masses de retour en arrière.
Oui, et alors, moi je me rappelle un temps ancien où j'étais dans le catholicisme et où on nous expliquait, alors qui nous expliquait ça, je ne sais pas exactement, mais la superstition autour de l'hostie, de ne pas croquer l'hostie, parce que sinon il y avait du sang dans la bouche, de ne pas toucher l'hostie, de ne pas... C'est quand même extrêmement...
C'est extrêmement développé. Ça apparaît, ce genre de thème, peu dans les textes officiels de l'Église et dans les textes des grands théologiens. Mais par contre, dans la piété catholique courante, dans l'enseignement catholique élémentaire, ça a paru très fort.
Oui.
Et c'est évidemment une exagération, une amplification de ce qu'a été l'enseignement catholique, plus que le noyau de l'enseignement catholique.
D'accord, dans les décisions, dans les traités théologiques, ça n'apparaît pas à ce niveau-là.
Ça apparaît peu.
Oui, mais ça c'est le problème de la piété populaire, de la compréhension de ces sacrements. Mais alors par quoi on pourrait les remplacer? Est-ce que les théologiens, notamment protestants, est-ce que Zwingli a pensé à remplacer les sacrements par autre chose?
Les rites, ça ne s'invente pas facilement. Les rites, ça surgit. Et moi, j'ai vu un rite surgir, mais qui n'a pas beaucoup... Dans les rencontres interreligieuses, où en cherchant un geste, on a trouvé ce geste de la fête des fleurs, où on s'offrait des fleurs les uns aux autres. et un geste de bonne volonté, de bienveillance, d'accueil, et qui était devenu un moment cérémonial dans nos rencontres interreligieuses et qui évitait quantité de problèmes.
Oui.
Et c'est un geste que j'aimais assez.
Oui.
Mais si on le sacralise,
ça devient
une superstition.
Oui, oui. Et le genre baiser de paix et compagnie, c'est un peu la même chose.
Oui.
C'est des choses qu'on essaye de ritualiser, mais ça ne prend pas.
Ça ne prend pas, non.
Et ça ne prend pas parce que c'est vraiment inscrit dans dans la profondeur des culturelles.
Paul Tillich a souvent dit qu'on n'inventait pas les symboles qui surgissent et qu'après, il faut avoir un regard critique sur le symbole. Alors, critique, ça ne veut pas dire négatif. Ça veut dire les éviter précisément de déborder.
Oui, alors c'est le regard critique, c'est un peu ce qu'on a eu là en essayant de comprendre
oui.
un petit peu le sens de ces sacrements. Et donc, on va voir maintenant pour la prochaine fois, la prochaine émission donc, sera consacrée à les réactions de la réforme par rapport à la scène. Alors, il me reste à vous remercier, André, et puis à remercier les auditeurs et à leur donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.